France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque semaine, une heure ou presque pour prendre ensemble le temps de questionner les mutations de notre époque. Et cette semaine, on s'intéresse à une photo. Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump ce lundi 20 janvier, ses équipes ont dévoilé son portrait officiel.
C'est génial, c'est intimidant, ça en impose. Je l'adore, ça montre bien que Trump est un dominant.
Pour cet humoriste américain, c'est une photo de dominant, ils s'en réjouissent. Une photographie en gros plan, très sombre, l'air menaçant, en totale rupture avec l'iconographie officielle et instantanément détournée façon film d'horreur sur les réseaux sociaux. Un détournement et un retournement de plus dont on discutera dans cette deuxième partie d'émission. Mais d'abord cette question. Quelles formes peuvent prendre les villes du futur face aux nouveaux défis climatiques ?
L'impuissance des pompiers face à la violence des incendies. Troisième nuit d'affilée de lutte acharnée et de nouveaux foyers continuent de se déclarer.
Depuis 1993, j'en ai vu des feux, mais jamais comme celui-là, même dans mes pires cauchemars.
Ces derniers jours, ces images, comme tirées d'un alarmant blockbuster de science-fiction, tournant boucle à celle de Los Angeles, en flammes. Après les inondations à Valence, après les vents à Mayotte, ces images apocalyptiques d'habitations dévastées, de populations déplacées, de quartiers en ruine, se succèdent. Alors comment améliorer les villes de demain pour faire face à ces enjeux dans un monde où, selon les estimations de l'ONU, 68% de la population vivra dans une zone urbaine d'ici 2050. Bienvenue dans un monde nouveau qu'il faut bien continuer d'habiter.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Et pour réinventer la ville du 21e siècle, rien que ça, hein, il y a en moins d'une heure en plus, pas moins de quatre invités ce soir. Deux architectes et deux artistes. Vincent Caillebeau, bonsoir.
Bonsoir Mathilde.
Vous êtes une figure de l'urbanisme, vous dirigez l'agence Vincent Caillebeau Architecture et vous êtes à l'origine de nombreux projets fascinants que vous présentez dans le livre Ville 2050 aux éditions Erol. Nicolas Delon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte, vous aviez représenté la France à la Biennale d'architecture de Venise. Vous revenez tout juste de Mayotte, que vous connaissez bien. Vous êtes le cofondateur du mouvement Encore Heureux et co-auteur de Dans le Mur chez Premier Parallèle. À vos côtés, une autrice de science-fiction, Chloé Chevalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié deux nouvelles passionnante sur le futur de votre ville H&M de Grenoble, dans un ouvrage collectif avec Alain Damasio. Ça s'appelle Quartier Libre, demain la ville chez La Volte. Enfin, François Skuyten, vous êtes là ?
Oui, absolument.
Parfait. En duplex de Bruxelles, vous êtes dessinateur. On vous présente peut-être plus pour le grand public qui vous connaît pour cette série culte Les Cités Obscures avec Benoît Peters. L'un de vos albums, La Tour, vient d'ailleurs d'être réédité chez Casterman. J'ai d'abord une question pour tous les quatre. Qu'est-ce qu'elle a été votre réaction ? Comment est-ce que vous avez vécu, ressenti ces images de Los Angeles ? Je commence avec vous peut-être, Chloé.
Oh, je me suis
la
dit,
dystopie.
Ouais, enfin voilà, Hollywood en flamme en même temps que Trump qui revient. Là, je pense qu'on peut définitivement enterrer le rêve américain ou quelconque fantasme sur ce pays une bonne fois pour toutes.
D'accord, c'est radical, Vincent Caillebeau.
Je trouve que c'était assez évident que finalement le dérèglement climatique touchait tout le monde, quelle que soit notre classe sociale. Et c'est vrai que pendant qu'on entend Trump qui dit « moi je vais forer » comme le plus grand des derniers climato-sceptiques, c'était hallucinant de voir l'une des plus belles villes des États-Unis brûler.
Nicolas Delon.
C'était peut-être la matière qu'on n'avait pas encore vue à cette échelle-là, qui était le feu, après l'eau qui avait ravagé Valence il y a quelques mois. Là, je reviens de Mayotte, où c'est ce cyclone tropical qui a quasiment tout détruit, ou en tout cas abîmé. Et donc là, c'est comme si l'ensemble des éléments étaient à l'œuvre. Et donc, il ne s'agit plus de savoir quand, comment et à quelle échelle. On voit que c'est partout et tout le temps.
C'est plus la question de lutter contre le réchauffement climatique en ayant des bâtiments à faible émission de gaz à effet de serre, par exemple, mais tout simplement comment faire face à des urgences de l'ordre du déluge, si on est toujours dans les métaphores bibliques.
Alors, je pense qu'il va falloir faire les deux, parce qu'il va falloir continuer à ralentir le réchauffement. Sinon, on aura une planète totalement inhabitable. Et donc, le défi, ça va être à la fois de réduire ces gaz à effet de serre et ce dérèglement, mais aussi de s'y préparer. On est obligé de faire les deux en même temps, travailler sur les causes et les conséquences.
François Skuyten, votre réaction, vous, face à ces images de Los Angeles en feu, du logo Hollywood partant dans les flammes ?
Tous les futurs possibles, parce que ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point on sous-estime certains phénomènes. et il y a des accélérations brutales. Je crois qu'on doit plus que jamais se projeter. Utopie, dystopie sont des outils pour envisager tout ça.
Une dystopie, c'est-à-dire une projection sombre de l'avenir du monde vécu au présent, c'est ce que vous avez ressenti, vous, François Schuiten? C'est quelque chose que vous auriez pu dessiner, Los Angeles en flammes dans vos cités obscures?
C'est pas spécialement ce qui me motive, parce que c'est terriblement déprimant. Mais ce que je trouve, c'est qu'effectivement, le dessin, l'imaginaire, de nouveaux imaginaires vont peut-être nous permettre de nous projeter avec crédibilité sur ce que le meilleur des villes, mais aussi le pire. Je crois qu'il faut faire cet exercice. Et souvent, on est dans la gestion et on a une petite difficulté à imaginer tout ça.
Vincent Caillebeau, pourquoi Los Angeles, c'est aussi un symbole intéressant? Vous disiez une des plus belles villes du monde, mais c'est une ville qui est intéressante parce qu'elle est totalement construite par l'homme. On y fait venir des espèces comme les palmiers ou les orangers pour imiter la Méditerranée, qui ne sont pas des espèces endémiques. On empêche les tribus qui étaient autochtones de combattre le feu comme elles le faisaient en brûlant une partie de la forêt. On installe des villas qui sont des résidences individuelles, etc., quoi.
Mais finalement, c'est vrai que Los Angeles est une très belle ville, mais c'est aussi la ville du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est une ville qui est basée sur l'étalement urbain à l'horizontale et sur l'hyper-individualisme. Et donc, effectivement, tout le monde a sa propre villa avec son immense jardin. Et ça a créé une ville qui est finalement très énergivore, où on a dû tirer des réseaux électriques, des réseaux routiers, des réseaux d'énergie. Et c'est un peu l'inverse de New York, car plus une ville est dense en général, moins elle est énergivore. Et là, on est une ville très énergivore qui avait commencé une mue en essayant de travailler de plus en plus à partir de matériaux biosourcés, à partir de design bioclimatique, c'est-à-dire un design qui respecte, par exemple, la course du soleil, l'axe des vents dominants, notamment pour se protéger du feu, faire des architectures par feu, faire des aménagements du territoire par feu, comme le faisaient effectivement autrefois les habitants. Et je pense qu'en tout cas, cet incendie va accélérer cette mutabilité nécessaire de la ville pour s'adapter au dérèglement climatique et en limiter les effets.
C'était une ville qui était vouée à disparaître en quelque sorte au XXIe siècle dans sa...
C'était une ville qui dans sa structure était devenue effectivement complètement obsolète, dans sa structure urbaine.
Donc le point de vue de l'urbanisme, je rappelle quand même le bilan parce qu'on continue à fouiller sous les décombres, hein. Il y avait plus de 27 morts hier. Il faut parler aussi de Valence, 29 octobre, 231 morts, les inondations à Valence, une catastrophe historique pour l'Espagne. Et puis le dernier bilan officiel, c'est 39 morts, une quarantaine de disparus, environ 5600 blessés à Mayotte, dont vous revenez, Nicolas Delon. On parlait de tous ces éléments qui se déchaînent. Qu'est-ce qu'il y avait à Mayotte dans la structure de l'espace, puisqu'on en parlait, qui a aggravé d'une certaine manière la situation et qu'il faut réadapter?
En fait, l'observation de ces catastrophes, où que ce soit, c'est à la fois considérer qu'est-ce qui cause ces dérèglements-là et comment architectes, urbanistes et la société en son ensemble doit penser différemment, mais aussi comment, sans s'y préparer, en fait, on va au-devant de catastrophes humaines. Et donc, il y a ce mot aussi qui est débattu. Est-ce qu'on considère que c'est des catastrophes naturelles ou des catastrophes humaines? On sait que de tout temps, il y a eu des feux en Californie. C'est comme ça, c'est connu.
On l'entendait et, d'ailleurs tout à l'heure.
Exactement.
Mais celui-là, c'est jamais dans mes pires cauchemars, 17 habitants.
Par son ampleur, était vertigineux, mais la ville telle qu'elle a été construite est aussi certainement un accélérateur de ces grands incendies. Et à Mayotte, ce qu'on a observé, c'est que la façon dont la ville avait été pensée, dont les habitats avaient été conçus, n'a pas résisté, alors qu'on sait qu'on est sur un territoire cyclonique. C'est pas nouveau qu'il y ait des cyclones dans cette partie du monde. Donc il y a un enjeu de savoir qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on ne va pas reconstruire. Et ça, je pense que c'est un véritable défi. Là, j'entendais en Californie dire on va reconstruire Los Angeles. En fait, ça serait une erreur de reconstruire. On produirait à la fois les mêmes effets et on s'ouvrirait au même résultat d'un futur incendie. Donc le défi social gigantesque, culturel même, c'est de dire comment, apprenons de cette catastrophe, nous décidons de ne pas reconstruire mais de faire différemment. On ne peut pas comparer à Notre-Dame, par exemple. Il a été dit pour Mayotte, on a bien réussi à faire Notre-Dame, on va reconstruire Mayotte. Je pense qu'il ne faut pas reconstruire Mayotte, il faut réparer Mayotte. Il faut voir tout ce qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années dans les infrastructures, dans la façon d'utiliser les matériaux locaux et surtout dans l'adaptation de ces bâtiments aux habitants. c'est la partie essentielle de ce défi.
Réparer et pas reconstruire, qui est une dynamique très après-guerre, quoi, très post-45.
Absolument, parce que reconstruction, c'est de dire, ben voilà, il y a eu un phénomène qui est venu d'on ne sait où, et puis on fait table rase et on refait parce qu'on est puissant. Et Trump est dans cette logique. Il faut se rappeler que Trump est un promoteur immobilier à la base. Hein, donc son métier a été de construire des villes, des tours, des gratte-ciels, etc. Et donc, moi, on considère qu'il faut vraiment avoir une nouvelle approche et que cette réparation, au sens large, est plus nécessaire.
C'est votre thématique aussi, Vincent Caillebeau, dans ces villes de 2050. Vous parlez de fabriquer avec l'existant.
Oui, bah en fait, c'est vraiment le but de notre génération d'architectes, où notamment bah, dans les grandes villes, aujourd'hui, on va dire que 90% du foncier existe déjà. Et donc, il ne s'agit pas de construire des nouveaux bâtiments ou des nouveaux quartiers, mais véritablement de les réparer, de les réhabiliter, de les soigner et de les amener vers le 21e siècle. Donc nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur le modèle de la solidarité entre des architectures contemporaines qui peuvent produire une partie de l'énergie électrique, calorifique, frigorifique ou même alimentaire dans le cadre de l'agriculture urbaine dont les bâtiments historiques ont besoin. Mmh. En France, par exemple, on travaille sur la réhabilitation des anciens thermes nationaux à Aix-les-Bains. C'est un bâtiment de 50 000 m² qu'on vient complètement réparer. Il a été construit depuis 200 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu des ajouts pendant la période néoclassique au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a des parties Art Nouveau, Art Déco, années 60. Mmh. Et nous, notre but,
vous avez rajouté aussi deux tours.
Voilà, c'est de garder le meilleur de chaque époque pour construire notre avenir, et on vient construire deux forêts verticales de logements qui produisent l'énergie électrique dont le bâtiment historique a besoin pour faire en sorte de densifier la ville.
Des forêts verticales et autres solutions, il en sera question dans cette émission. On vous présentera de nombreuses villes du futur qui nous interpellent, réelles ou fictionnelles, mais tout de suite le vrai tube mondial de Pomme et Stromae sur France Inter.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi.
Un succès phénoménal avec près de 230 millions d'écoutes sur Spotify. Ma meilleure ennemie, signée Pomme et Stromae, a battu le record du titre francophone le plus écouté dans le monde. Vous le savez maintenant. Une chanson écrite pour la saison 2 de la série Netflix Arcane, adaptée du jeu vidéo League of Legends. Et ça nous intéresse aujourd'hui parce que cette série, elle se situe dans un monde où la société est devenue plus verticale et inégalitaire que jamais, avec une ville où habitent les riches dans la partie supérieure et au-dessous, une autre ville où habitent les pauvres, cantonné au souterrain insalubre, une des formes dystopiques de la ville du futur, mais il y en a d'autres plus utopiques.
France Inter. un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Traçons les plans de la ville de demain, toujours avec l'urbaniste Vincent Caillebaud, l'autrice de science-fiction Chloé Chevalier, l'architecte Nicolas Delon et l'auteur de BD François Skuyten en duplex de Bruxelles. Justement, François, dans votre série culte Les Cités Obscures avec Benoît Peters, vous montrez que pour penser la ville de demain, vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, on a autant besoin de projections utopiques que dystopiques. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut toujours envisager le pire et le meilleur quand on fait le plan de la ville du futur ?
Oui, généralement, on a tendance à préférer donner des visions chatoyantes et très positives, mais c'est un exercice nécessaire que d'aller aussi voir le pire. Parce que c'est là-dedans, dans ce contraste, dans cette tension, que je crois qu'on peut commencer à réfléchir d'une façon beaucoup plus, je dirais, juste et équilibrée. Parce qu'il y a, en nous vend, hein, on nous a vendu des gestes, des villes, des projets parfois extrêmement problématiques, et il aurait fallu faire l'exercice du pire. Ça a été fait, mais pas assez, je trouve.
C'est par exemple, qu'est-ce que vous avez en tête comme quelque chose de mirifique, où il aurait fallu se projeter dans le pire bien avant ? Los Angeles, par exemple ?
Oui, Los Angeles, mais même, il faut pas se le cacher, des projets de Le Corbusier sur Paris faisaient un peu peur, quand même. Et des films comme Blade Runner ont montré ce que pourraient être des villes, et c'était des visions très, 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 très intéressantes sur ce qu'une ville peut donner à voir, quoi.
Urbicande représente une cité écrasante gouvernée par un démiurge autoritaire. C'est l'une de vos cités obscures. Mais on va citer aussi une autre ville qui est rééditée en ce moment, une cité obscure qui s'appelle La Tour. Est-ce que vous pouvez me décrire cette tour qui est assez incroyable, François Skuyten ?
Oui, on s'est inspiré de plusieurs choses. D'abord du tableau de Bruegel, mais aussi des gravures
de Babel.
De Piranèse. Oui, la Tour de Babel, évidemment, œuvre extraordinaire qui montre, qui a une complexité, qui montre toutes les couches de ce que peut représenter un projet comme cette tour infinie. Et puis aussi des gravures de Piranèse, des peintures de Hubert Robert. Le goût des ruines, en fait, qui a été un élément important et qui, mine de rien, revient. Les incendies, les catastrophes nous ramènent aux ruines. Les ruines font partie de notre histoire. Il y a une certaine fascination pour la ruine.
Et c'est une tour sans fin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une tour qui grimpe, et Giovanni qui s'en occupe, il ne sait pas où est le début, où est la fin. C'est une tour d'espoir aussi, ça représente ce geste-là, un peu, c'est celui qu'on pourrait avoir pour le futur, François Skuyten.
Oui, c'est un monde. Cette tour est un monde complet. Il en est un des gardiens, un des multiples gardiens. Il ne comprend pas tout. Et c'est son parcours, c'est sa remontée pour essayer de voir qui dirige cette tour. Ses dirigeants ont disparu dans ce système extrêmement opaque. Et c'est ça qui était amusant, évidemment, à dessiner et à raconter. C'est évidemment une métaphore aussi sur, évidemment, le monde dans lequel on vit, dont on ne saisit vraiment pas toujours la logique.
Oui, et les villes dans lesquelles on vit, dont on ne saisit pas non plus la logique. Est-ce qu'on pourrait poser cette question provocante, tout simplement, y a-t-il un avenir possible en ville, Nicolas Delon ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en finir ?
Alors, certains souhaiteraient mettre les villes à la campagne, mais dépasser cette blague, la question, c'est vraiment la question de l'habitat plutôt que de la ville. Et en fait, il se trouve que on a une surface donnée dans laquelle nous pouvons habiter. On ne peut pas habiter au pôle, on ne peut pas habiter dans les déserts, pas sur l'eau ou difficilement. Et donc, on a une population mondiale aujourd'hui de 8 milliards d'habitants, et on sait que la ressource disponible foncière est limitée. Donc il y a ce défi de sa répartition. Et on a besoin de garder de la surface pour se nourrir, et puis la surface naturelle, sans biodiversité, c'est la fin aussi de l'espèce humaine. On est dépendant de 8 millions d'autres espèces. Et donc, la question qui nous importe, c'est comment habiter ? Comment mieux habiter ? Comment regarder là où il y a des potentiels d'habitat proche de chez nous? On sait que juste à côté d'ici, le quartier de la Défense, il y a des millions de mètres carrés qui sont vides, alors qu'il y a une crise gigantesque du logement dans une ville comme Paris. Voilà, il faut repenser la façon dont on répartit les espaces, dont on peut réhabiter des espaces qui sont vacants aujourd'hui. Ça, c'est très important. Plutôt que de continuer à construire, continuer à penser que les grandes tours, les grandes barres ou les grandes solutions, on pourra revenir sur ce mot-là auquel on apporte beaucoup de doutes, hein, parce que la complexité fait présager qu'il n'y aurait pas de solutions, mais plutôt des stratégies d'adaptation. En tout cas, voilà ce qui nous semble importer, c'est de questionner cette habitabilité et comment, quand cette habitabilité devient un danger ou un péril, car on ne peut plus habiter, suite à un incendie ou suite à une inondation, quelles sont les stratégies collectives qui émergent ? Et c'est ça, en fait, c'est l'utopie, dystopie nécessaire.
Mais justement, c'est présent dans votre nouvelle, Chloé Chevalier. Donc, c'est un diptyque qui s'appelle donc, c'est Quartier Libre, Demain la Ville. Et vous présentez votre cité HLM à Grenoble, vous projetez dans le futur. Et il y a un peu deux scénarios. Dans la première nouvelle, la société est obsédée par la question de la sécurité. On a mis des caméras de surveillance partout, etc. Et pendant ce temps-là, les gens vivent dans des appartements irrespirables, en fait, et avec une montée des eaux à l'extérieur. Dans la seconde nouvelle, les habitants du quartier prennent les choses en main. Ils vont trouver des... Alors, pas des solutions, des stratégies, des dynamiques.
Oui, oui. Je ne sais pas si c'est aussi contrasté que ça entre les deux branches, finalement, mais effectivement... Bah
je résume à gros traits pour qu'on comprenne.
Mais oui, l'idée, c'était d'écrire ce diptyque de nouvelles, parce que je suis un co-auteur, Clément Schneider, sur ces nouvelles. Bref, de partir de quelque chose vraiment... très proche du présent à échelle humaine. Donc voilà, je suis partie de cette cité, enfin ensemble de tours HLM qui date des années 60-70, qui a quelque chose de très intemporel face au changement climatique, qui fait toujours soit trop chaud, soit trop froid, soit trop humide. Mais en fait, on va pas tout casser, on va continuer d'habiter dedans. Donc à partir de là, comment on s'imagine vivre là-dedans à plus 50, 60, 70 ans dans les nouvelles. Donc on a fait une espèce de la vie mode d'emploi la Pérec, mais version future, et qui montre des choses.
Et la partie utopique pour vous, c'est l'organisation des citoyens sur ce territoire.
Il y a plusieurs choses, je pense qu'il y a la multiplicité des voix, parce qu'il n'y a pas un héros ou une héroïne qui va prendre les choses en main au nom de tout le monde. C'est vraiment plutôt une chronique de beaucoup d'habitants, et voire des voix non humaines aussi qui vont prendre la parole. Donc il y a quelque chose de la multiplicité des voix dans l'utopie, mais aussi de réappropriation de ces espaces, de ces bâtiments par les gens. Finalement, tout ce que vous avez évoqué un peu tout à l'heure, ces bâtiments plus végétalisés, un peu dépollués, les villes verticales, vont être explorés dans ces tours à petite échelle, avec les moyens du bord, en fait.
Ils nous font des forêts verticales, en fait, sans le savoir.
Pas
en fait,
vos héros. Oui, juste des jardins à l'échelle des tours où ils habitent.
Voilà, on va présenter un peu trois styles de dystopie qui pourraient concerner la ville. Bon, déjà, est-ce que ce sera le modèle de la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, Tokyo, New Delhi, Los Angeles, qui va prendre le pas? Est-ce que ce sera une dystopie, justement, à la Alain Damasio, c'est-à-dire avec un effet de privatisation? On l'entendait aussi quand je parlais de la série Arcane, où il y a une secteur en fait, entre les riches et les pauvres. Il y a une autre dystopie qui est orwellienne, qui est celle d'une surveillance accrue, qui est aussi présente dans votre nouvelle, avec la ville, on va dire, qui est gouvernée par le numérique, et un certain nombre de données qu'on ne contrôlerait plus. Et puis enfin, il y a la dystopie de l'inaction. Justement, est-ce que c'est pas celle-là la pire, c'est-à-dire une insécurité généralisée, des disettes, comme au 19e siècle? C'est la pire des dystopies qui concernent la ville, Vincent Caillebot?
Moi, je suis toujours plutôt du côté des utopies, c'est-à-dire pour essayer d'inventer des modèles qui n'existent pas encore. Parce que la dystopie, c'est vrai qu'on en a, on nous l'a beaucoup servi à travers tous les films de science-fiction depuis notre adolescence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment plongé dans l'éco-anxiété, en tout cas la nouvelle génération, et on a soif de solutions. On veut des trousses à outils de la part des architectes, des urbanistes, des écrivains qui nous proposent des récits enviables, des villes désirables. Et je pense que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui.
Parlons justement de cette boîte à outils, de cette trousse à outils, Vincent Caillebot. Je sors par exemple le gros stabilo Ville du quart d'heure. Donc c'est le concept de Carlos Moreno. En 2016, c'est une ville de proximité. On peut tout faire à un quart d'heure, se loger, se nourrir, travailler.
Alors, la ville du quart d'heure.
Ça, c'est le meilleur outil, presque.
La ville du quart d'heure, elle n'est pas trop compliquée à inventer. C'est celle de nos grands-parents. C'est-à-dire que nos grands-parents, à 15 minutes à pied de chez eux, ils avaient leur lieu de travail, ils avaient les champs qui les nourrissaient, ils avaient les écoles pour les enfants, et ils avaient leur lieu de rassemblement et de convivialité. Et donc, c'est vrai que. Ce lien, on l'a perdu dans les villes, parce que depuis les années 60, on a construit la ville monofonctionnelle, le quartier de la Défense de bureaux, on a par exemple muséifié le centre de Paris, on a créé des villes nouvelles en périphérie parisienne qui sont devenues monoculturelles plutôt que pluriculturelles, et tout ça nous a rendus dépendants de l'automobile. Et l'automobile a finalement étalé la ville comme une pâte à crêpes, et aujourd'hui, on essaye de venir redensifier les fonctions et de faire en sorte de proposer une multifonctionnalité multifonctionnalité dans tous les quartiers, dans tous les micro-centres-villes dans lesquels on vit.
La multifonctionnalité, par exemple, c'est la boîte de nuit qui devient une salle de sport pendant la journée. Et comme ça, on utilise les espaces avec une double fonction. Et puis, il y a aussi l'idée d'avoir plusieurs centres pour éviter voilà, de multiplier les trajets. On va écouter cette publicité, je ne sais pas, qui se veut utopique et qui est quand même un peu dystopique au final. C'est la pub pour le projet Neom en Arabie Saoudite.
Depuis trop longtemps, l'humanité a vécu dans des villes dysfonctionnelles et polluées, qui ignoraient la nature. Aujourd'hui, une révolution civilisationnelle est en cours. Imaginez une ville traditionnelle qui réduit son empreinte, pensée pour protéger la nature. The Line comptera 9 millions de résidences et ne mesurera que 34 km². Et nous l'avons pensé pour fournir une qualité de vie plus saine et plus durable.
Wow, ça a l'air trop génial. Vincent Caillebeau, vous nous décrivez ce projet Neom, qui est un projet donc en Arabie Saoudite, qui est en chantier, qui est un chantier qui est aussi devenu un chantier de l'horreur pour les catastrophes humaines qui s'y déroulent. Mais c'est quoi le projet Neom ?
Donc le concept, en fait, point de vue sustainable, point de vue développement durable, c'est de se dire qu'ils ont des villes comme Jeddah ou comme Riyad, qui sont des villes de 10 à 15 millions d'habitants, qui ont mangé le désert et qui sont devenus très énergivores. Ils se sont dit, on va prendre ces villes à l'horizontale et on va les ramener dans une barre géante de 480 km de long, donc un peu comme si on reliait le Puy de Dôme à la baie de Nice, donc qui traverse la moitié de la France, sur une hauteur plus ou moins équivalente à celle de la Tour Eiffel. Et donc, entre ces deux barres, il y a une seule rue qui contient tous les réseaux et qui...
une rue qui va du Puy de Dôme à Nice.
Voilà, à Nice, donc qui n'est pas en TGV, avec multi-arrêts, et qui permet de desservir toutes les fonctions. Ils ont bien... Enfin, pour eux, ils se disent c'est un modèle de ville qui n'existe pas, donc ils veulent l'inventer. Tous les urbanistes et les architectes sont plutôt critiques vis-à-vis de cet urbanisme, mais ils sont en train de le tester, je pense, sur un tronçon, de 2,5 km.
Oui, 2,4 km exactement, alors que ça devait faire 170 km de long au départ. Donc là, il y a aussi une baisse, je crois, du niveau des revenus du pétrole qui a aussi un peu ralenti le chantier, c'est ce que j'ai lu.
Dans leur tête, c'est un prototype de 2,5 km, ce qui est quand même pas mal pour un prototype.
Nicolas Delon, le projet Neom, comment vous le voyez ?
Alors, ça dépend comment on le regarde. Si on considère que c'est un potentiel modèle, on n'y croit absolument pas. C'est comme si on disait que Venise pouvait être un modèle au 15e, 16e siècle et qu'il y aurait des Venises partout. Non, il y a eu une seule Venise, une ville que je connais bien par ailleurs, et qui est le résultat d'une période où les marchands de Venise dominaient la Méditerranée, exploitaient des ressources très lointaines et ont fait cette ville hallucinante. Donc, si on est dans ce rapprochement-là, on peut dire, ben voilà, c'est un des pays les plus riches et exportateurs du pétrole, qui est d'ailleurs la cause de ces dérèglements climatiques. Donc, c'est là où il y a des boucles de rétroaction totalement délirantes. On a les personnes qui sont aux premières loges de la catastrophe qui vient et qui sont en train de nous dire voilà comment on pourrait penser la ville. Si vous voulez, il y a quelque chose qui ne marche pas quand même dans la logique.
Ou les énergies fossiles qui dessinent la ville, des énergies fossiles.
On sait que ça ne marche pas et on sait que les moyens et les ressources, c'est des villes extrêmement coûteuses et donc ça ne pourra jamais être un modèle.
Comment vous réagissez-vous, l'autrice de science-fiction Chloé Chevalier, à ce projet qui est un peu SF?
Oui, en fait, moi, je le connaissais pas. En fait, je l'ai découvert tout à l'heure en attendant. Pour moi, en dehors du film de science-fiction, j'ai du mal à me projeter là-dedans, en fait. Enfin, je m'arrête au visuel pur où je fais « Ah, waouh !» Mais je vois pas la vie là-dedans. Et puis, quand il me parle de cesser d'ignorer la nature et d'aller vers une ville traditionnelle, bon... Voilà. Mais bon, au moins ça change effectivement des clichés de la science-fiction avec les villes ultra verticales de plusieurs kilomètres de haut où...
Il y a un nouveau dessin.
Voilà, il y a un nouveau dessin.
François Skelton, vous êtes d'accord ? Pardon.
Oui, ça c'est pas vraiment ce qui me fait rêver. De nouveau, une fois de plus, on voit bien qu'il y a une façon de mettre sous le tapis toute une série de conséquences de projets comme celui-là. Je n'ose pas imaginer les conséquences en termes d'environnement, la violence d'un objet aussi énorme, aussi. Et justement, vous avez parlé très justement de qui va construire ça, dans quelles conditions. On ne peut plus aujourd'hui enlever cet aspect des choses. Il faut envisager l'ensemble. Et comment c'est construit? Quel respect humain? Quelle vision de plaisir? Et je n'aurais pas du tout envie de vivre là.
Je vous propose un autre exemple, alors. Il s'agit de Woven City. C'est la ville tissée, la ville de Toyota. Elle a été inaugurée, en fait, tout récemment. Hein. C'était la semaine dernière. Et c'est une ville, donc, du fabricant Toyota, pensée d'une manière hyper connectée. Je vous fais un tour des innovations. Les voitures sont volantes, tiens, enfin, comme dans les romans et les films de SF. Les femmes qui voudront marcher seules la nuit seront escortées par un drone. Les personnes à mobilité réduite auront droit, elles, à des fauteuils roulant, capable de rouler à la vitesse d'une voiture de course. Voilà quelques-unes des innovations de cette Woven City de Toyota. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est une Smart City, Vincent Caillebeau, comme on les appelle.
Oui, mais c'est un peu la ville des geeks. Donc, c'est la ville des technocrates passionnés d'high-tech. Et donc, ben voilà, ils ont fabriqué un peu un jouet géant. Là-bas, c'est quand même la mobilité électrique est partagée, où en fait, c'est un peu le royaume de la voiture sans chauffeur qui va venir essayer de remettre en place le concept de la ville du quart d'heure, avec quand même des bâtiments qui prônent la construction en matériaux biosourcés, c'est-à-dire avec des matériaux naturels non transformés, et une intégration massive des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'ils prônent la décentralisation énergétique, le fait que chaque bâtiment pourra produire l'énergie qu'il consomme, et même en redistribuer aux bâtiments voisins en fonction des heures de la journée, en fonction des programmes, pour consommer moins mais mieux.
Mais Nicolas Delon, c'est une réponse aussi technologique peut-être à ces défis climatiques. Là, on parle en effet de capteurs de données qui, une fois gérés, pourraient nous aider. Vous y croyez, vous projetez dans l'utiliser. Alors, dans vos projets à vous en tant qu'architecte.
On était sur un producteur de pétrole et là, on a un constructeur d'automobile. Donc, c'est intéressant. On est aussi dans le même champ lexical.
À croire que tout le monde veut sa ville. Voilà. Et je ne vous parle même pas des libertariens de PayPal qui veulent aussi leur ville.
Non, mais si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est la limite matérielle de ces villes-là. Et la technologie, les smart cities dans les années 2010, tout le monde pensait que la tech allait être une solution. Et on voit bien que la ressource en terres rares qui permettent d'être présente dans nos smartphones ou dans toutes les technologies center. Dans les data centers est épuisée, est épuisable et on n'en aura pas. Donc imaginez que ces villes-là vont être duplicables, c'est totalement impossible, c'est totalement une utopie réalisée. Pour moi, ces villes sont des utopies réalisées mais auxquelles on ne peut pas souscrire.
Oui, Chevalier, moi, je sais même pas l'auteur de SF, l'autrice.
Je ne sais même pas si je leur accorderai le terme d'utopie, parce que si on voit l'utopie comme un horizon commun vers lequel on peut tous avancer, ce n'est pas des utopies. C'est d'accord, c'est des jouets, c'est un one-shot. Quelqu'un s'amuse, des gens riches, mais c'est pas généralisable. C'est pas des idées, des concepts.
Mais François Skeuten, justement, vous avez travaillé avec les sites obscurs sur des modèles diversifiés en fonction des villes, des projets différents à chaque fois. C'est l'idée finalement de vouloir une ville standard aussi qui est totalement épuisée.
Absolument. Alors sur le papier, c'est vendeur, ça a une espèce de, c'est un petit peu une image comme ça, un peu radicale, sans nuance. Et c'est ça qui le rend effrayant. Et je crois que les villes de demain seront beaucoup plus complexes et beaucoup plus, comment dire, ça sera. Il y aura du tissage, mais pas comme ils le disent.
Alors, il y aura aussi une très belle tour, il faut le signaler, Vincent Caillebeau, une tour qui existe, hein, la tour Tao Zhu Ying Yan à Taipei, avec sa, c'était bien dit, hein, avec sa forêt entièrement végétalisée sur l'immeuble.
Donc en fait, c'est une tour qui a un BIPOS, donc un bâtiment énergie positive. Et le principe, c'est une tour qui imite la thermitière. Donc elle est naturellement ventilée, elle n'a pas besoin de climatisation mécanique et elle est recouverte de plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres qui permet finalement de ramener la campagne au cœur de la ville.
Nicolas Delon, un projet auquel vous croyez pour la ville de 2050 ?
Ben, moi, je rejoins notre ami Skuten sur la diversité, la complexité, le tissage réel, pas un tissage fantasmé. Et je pense que c'est vraiment le défi. Et s'appuyer sur des villes aussi qui ont prouvé leur résilience, leur résistance, leur robustesse. En fait, on a sous les yeux tout ce qui marche et on essaie toujours de penser qu'on va trouver mieux. Et nous, on pense, si on revient à Mayotte, que par exemple, ce qui fonctionne à Mayotte existe, c'est ce qui a tenu pendant le cyclone et c'est ce qu'il faudrait réparer plutôt que de penser qu'on va arriver avec des idées géniales qui ne seront pas adaptées.
Merci, merci à tous les quatre. Et restez avec nous, on parle du portrait officiel de Donald Trump. Et ça fait peur.
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo.
vida así, la vida así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera. Debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita.
Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo nos dimos la mano. Y ahí soñamos con un futuro. Que estemos bien no hace falta mucho. Por un segundo nos olvidamos de todo. Aquí solo somos tú y yo.
Vamos a besarlo frente a la sola.
Aunque sea de piquito, de piquito, de piquito, pim, pim.
Vamos a besarlo
pim, pim,
frente a la sola.
Hay muchos mosquitos en la costa. Baby, voy a ponerle un screen.
Vamos a besarlo frente a la sola.
Eso brilla como bling bling.
Vamos a besarnos frente a la sola.
Vamos a quedarnos por Maya. Después te llevo a París.
Por eso es que me gusta ir contigo a la playita. Y llenarte de besitos la carita. Y un día juntito lo que yo necesito. Sonriendo tú te ves más bonito.
C'est tout simplement l'événement musical de ce début d'année avec son sixième album Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny, l'un des artistes les plus écoutés au monde, rend hommage à Porto Rico, son île comparée à une île d'ordures pendant la campagne présidentielle américaine. Un album comme un hymne de fierté nationale qui fait pleurer les Portoricains sur TikTok, la plateforme chinoise qui vient d'être interdite aux États-Unis.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Un monde nouveau et une photo nouvelle, celle de Donald Trump. La photo officielle a été présentée il y a quelques jours, juste avant l'investiture de Donald Trump, ce lundi 20 janvier. Bonsoir, Amy Green.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, experte associée à l'Institut Montaigne, autrice de « L'Amérique face à ses fractures ». Que reste-t-il du rêve américain ? On avait envie de vous avoir avec vous pour commenter cette photo un peu hallucinante quand même, du portrait officiel de Donald Trump, shooté par Daniel Torok. Vous nous la décrivez une seconde ?
Oui, c'est une photo qui ressemble drôlement à la photo prise par les services de police justement au moment de l'inculpation de Donald Trump. Effectivement, c'est un portrait assez sombre, très sérieux d'un Donald Trump voilà, qui regarde avec beaucoup de défiance, je dirais, la caméra. Et donc, c'est une photo complètement différente de celle de ses prédécesseurs.
Vous dites donc la photo d'arrestation de Donald Trump qu'on a appelé le mugshot.
C'est ça.
Parce qu'il en a fait, en fait, un outil promotionnel. Il avait renversé ce qui est une arrestation. Donc, plutôt, on dirait un point moins dans une campagne, un point plus et même une source de revenus.
Oui, c'était effectivement un levier de levée de fonds assez important parce que en effet, cette image d'un homme qui défie la justice, qui défie toutes les accusations, tous les coups qu'on pourrait lui infliger, parle beaucoup à ses soutiens, qui voient cet homme qui résiste à tout, qui est intouchable, qui est imperméable plutôt. Et donc effectivement, ça a bien marché pendant la campagne. Et puis là, voilà le portrait officiel et on va retrouver presque exactement la même expression, mais dans d'autres circonstances, avec une autre image de fond, mais effectivement, on va voir des ressemblances presque identiques.
Jusque-là, les présidents étaient donc tous souriants, même lors de son premier mandat, Donald Trump, en 2016.
Oui, oui, effectivement, on va avoir un George Bush souriant, un Bill Clinton souriant, Barack Obama, Joe Biden, etc. On va avoir également des présidents qui sont pris en photo un petit peu plus avec le recul. Donc là, dans cette photo de Donald Trump, on ne va pas voir beaucoup de sa...
Oui, le
de
cadrage sa... est très serré.
Exactement, c'est très cadré sur son visage. La luminosité fait qu'il y a une lumière très très forte sur son visage. Donc c'est vraiment la chose qui ressort. Et derrière, on va avoir un drapeau américain tranqué. C'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la photo, mais à la différence des photos de ses prédécesseurs, des portraits, on ne va pas voir les étoiles. Donc c'est une photo vraiment très très dense, très enfermée, qui va vraiment mettre en exergue le visage du futur président des États-Unis.
Et du coup, c'est vraiment un point de rupture historique, on peut le dire, dans la politique, l'histoire de la politique américaine.
Ah bah oui, complètement. Ça va montrer à quel point justement la puissance de l'Amérique n'est plus incarnée par un homme souriant qui essaie de photographier l'optimisme, l'ouverture à l'autre. C'est une photo extrêmement dure, très sévère, très sombre, austère, et donc qui correspond bien à la fois de l'ambiance, de l'humeur des Américains, c'est-à-dire vraiment beaucoup de colère, de frustration, de méfiance, mais aussi ça part de sa façon de concevoir le pouvoir. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette photo-là, c'est qu'effectivement l'absence des étoiles, c'est le premier président qui va se faire photographier sans ces étoiles-là. Alors, ce qui est très intéressant, bon, on peut dire, c'est peut-être je cherche un peu loin, c'est possible, mais je pense que Donald Trump, c'est un expert de la communication, rien n'est au hasard.
Oui, rien n'est au hasard.
Et donc le bleu représente la justice, il est peut-être fâché contre la justice.
Et les démocrates aussi ?
Oui, c'est la couleur des démocrates. Alors que Donald Trump, il est habillé en bleu, donc on va peut-être retrouver justement le bleu et le blanc dans ses habits à lui.
Est-ce que c'est une façon de dire qu'il aide la justice et c'est une façon aussi de lui faire une provocation en levant un sourcil ?
Ah, c'est intéressant. Je ne vais pas penser forcément à cette analyse-là, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant le symbolisme du bleu dans le drapeau. Évidemment, toutes les couleurs ont leur symbolisme sur ce drapeau-ci. La justice est effectivement attribuée à cette couleur bleue.
Il sert aussi à sortir du cadre de l'iconographie officielle, ce semi-air menaçant, ce cadrage très serré. Ça sert à mettre Donald Trump au niveau d'autres images qui sont détournées ensuite sur les réseaux. Est-ce que vous pensez qu'elle est conçue, puisqu'elle l'a été énormément détournée façon film d'horreur, je le disais tout à l'heure, elle est conçue dans cette perspective, plus que dans une perspective, je veux dire, de portrait affiché dans la famille des présidents américains ?
Oui, évidemment, il a un œil sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation, l'exploitation par des supporters ou sur Internet. Et d'ailleurs, quand ils ont lancé le portrait, il y avait le commentaire « Voici les portraits, on est prêts à y aller dur ». Donc, c'est une façon, effectivement, de faire appel à des followers sur les réseaux sociaux, de les utiliser, les transformer, les partager très, très largement.
Et ça, finalement, c'est une dynamique de la présidence Trump dans l'iconographie, le même, comme on l'appelle sur Internet.
Alors, ça parle beaucoup, effectivement, de cette iconographie-là, de cette utilisation très habile des réseaux et des médias alternatifs par Donald Trump. Ça parle également, justement, de la place qu'occupent les médias
Musk.
Digitaux.
Et Elon Musk auprès de lui.
En effet,
le patron,
premier entre eux, tout à fait.
Oui, le patron de X. Qu'est-ce que ça nous annonce de la... On va dire, on entendait tout à l'heure un humoriste qui parlait d'une photo dominante et qui s'en réjouissait de la virilité aussi affichée par Donald Trump.
C'est vrai que Donald Trump, il a fait de cette campagne un enjeu du genre. Et donc, en incarnant cette masculinité sans apologie, sans excuse, très ferme, très dure. Mais en fait, je pense aussi, effectivement, que ça va renvoyer à sa conception du pouvoir. C'est-à-dire que la puissance américaine n'est plus forcément souriante. La puissance américaine va rentrer dans un rapport de force dur avec les hommes forts du monde. Et ça va montrer, effectivement, de quelle manière Donald Trump va concevoir l'écosystème international dans lequel il va évoluer.
Et ça me fait penser à une autre image, et je vous la soumets à l'analyse. Vous voyez cette image de l'oncle Sam qui vous pointe du doigt et qui vous dit « America wants you ». Il y a quelque chose comme ça dans son slogan « Make America great again ». Il y a quelque chose du retour de l'oncle Sam aussi. C'est ancien et moderne comme proposition.
Alors, l'image d'oncle Sam avec son doigt, ça nous appelle justement par ce geste-là, alors que le portrait de Donald Trump nous attire par le regard très intense, sans apologie et effectivement qui nous défie. Défie quoi, je ne sais pas, mais qui nous défie.
Merci, Amy Green. Il va falloir suivre ça pendant la mandature de Trump pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo. Et merci à tous les cinq aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Amy Green, je le rappelle, le titre de votre dernier livre, c'est « L'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain ?» sorti l'année dernière chez Talendier. On parlait de Los Angeles en flammes avec nos autres invités. Françoise Cuten, merci d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. On conseille Les Cités Obscures dans leur intégralité. Vos séries cultes, dont l'un des nombreux tomes, La Tour, vient d'être réédité chez Casterman. Nicolas Delon, merci pour votre éclairage. Votre dernier livre, Dans les murs, coécrit avec Benoît Bonnemaison, Fit et Ronan Le Tourneur, c'est chez Premier Parallèle. Chloé Chevalier, le dictype que vous avez écrit avec Clément Schneider est publié dans le recueil de nouvelles Quartier Libre, Demain la Ville, chez La Volte, hein, c'est chez la bande Adamasio. Et puis Vincent Caillebeau, merci d'avoir été parmi nous. Vos projets les plus marquants, ils sont rassemblés dans un beau livre, Ville 2050, 10 actions d'architecture climatique pour un futur désirable. C'est aux éditions Erol et c'est co-signé avec le journaliste Arnaud Pagès. Et grand merci à mon équipe, la rédaction en chef, c'est Redouane Tella, la réalisation Fred Milano, la préparation Marion Philippe et à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, la technique cette semaine, Guillaume Roux.